Alors, faudra qu'on en change.
Ouais.
Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Bonsoir à tous, nous voilà donc dans les arènes de l'écologie pour une émission spéciale comptabilité carbone, et plus précisément économie carbone, avec Anna Criti, qui est professeure de la chaire d'économie du climat à Paris Dauphine. Je crois que c'est la seule chaire de ce type. C'est une discipline que quand nous étions à la fac, moi-même et encore plus Ben, ça n'existait pas. Donc on va savoir, elle va nous raconter tout ce qui se dit, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle discipline que de l'économie du carbone. Mais bon, avant tout ça, on va pouvoir écouter Ben nous faire sa chronique hebdomadaire sur le tour du monde à l'intérieur du périph'. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ?
Mesdames les gladiateurs, ouais, il faut quand même que je vous parle un peu de ce qui se passe. Alors, c'est mon tour de la planète.
Oui, tour de la planète.
Et je vais quand même démarrer par quelque chose qui me paraît fondamental, c'est la question de la disparition de la culture. On en parle beaucoup depuis Trump, mais c'est vraiment une question qui se pose aussi pour nous, parce que le ministère de la Culture est en train de se réduire comme peau de chagrin. Le budget de la culture de 2025, il a encore subi une baisse de centaines et de centaines de millions. Et je me suis aperçu que le budget représente 0,6% du budget de la nation. Et ça, c'est quand même un peu compliqué. Et je pense même que c'est une faille dans tout le dispositif. Alors, c'est vrai qu'il y a des communes, il y a des villes comme Bordeaux, comme Paris et Marseille, où le budget de la culture, pour la culture, continue à augmenter. Donc on voit bien que c'est un choix politique qui doit être fait, mais c'est vraiment le moment, peut-être, il faudrait le dire, François, c'est que les pouvoirs publics devraient dégainer leur financement davantage pour la culture et moins pour la guerre.
Il n'y a plus de sous.
Alors, c'est intéressant parce que aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que le 21 mai, c'est la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Donc c'est cette journée mondiale auquel on n'attache pas beaucoup d'importance. Mais quand même, il y a un vrai problème de culture générale même sur la question du climat, de la capacité qu'on a aussi de développer tout ce qui mérite d'être développé en matière de diversité et de culture. Alors, quand je parle de culture, je pense bien sûr à l'UNESCO. Et l'UNESCO, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est à partir de 2001 seulement que la diversité culturelle est considérée comme un héritage commun de l'humanité. Depuis 2001 seulement. Alors j'aime bien vous parler de l'UNESCO, pas seulement parce que je suis parisien, mais parce que le siège de l'UNESCO, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas le droit de sous-estimer. C'est pas seulement le lieu où il se passe des intrigues de certains diplomates qui n'assurent pas toujours de la diplomatie, qui ne s'occupent pas seulement de diplomatie culturelle, d'ailleurs. Mais le siège de l'UNESCO, mine de rien, c'est un véritable musée.
Mais il est ouvert, on peut y aller ?
On peut y aller n'importe quand. Et il expose plus de 700 œuvres d'art. Et ça mérite vraiment le détour. Et l'UNESCO, bon, c'est compliqué parce qu'en même temps, on y parle de paix. Et ça se trouve comme par hasard en face de l'école militaire, dans l'axe du Champ de Mars. Et c'est en même temps, le siège auparavant était à l'hôtel Majestic, là où d'ailleurs il y a eu un rendez-vous historique important, puisque c'est là que furent signés en 73 les accords de Paris, négociés par Henry Kissinger pour mettre fin à la guerre du Vietnam. Mais pour revenir à la culture, on s'aperçoit que c'est vraiment un parent pauvre dans tout le dispositif international. Pas seulement la façon dont on a marginalisé un peu l'UNESCO, pas seulement parce qu'il y a seulement un problème sur justement les objectifs du développement durable. Là d'ailleurs, je pense que ça mériterait, François, de faire une émission spéciale avec ceux, et il y en a, qui proposent aujourd'hui qu'il y ait un 18e objectif du développement durable et qui soit vraiment axé sur la culture. La culture, c'est cette dimension-là du développement durable. Elle accuse vraiment un retard par rapport aux autres dimensions qui sont reconnues, qui sont la dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale. Et là, il y a vraiment je pense qu'il y a tout un travail à faire pour que la culture reçoive ses lettres de noblesse. Parce qu'après tout, ce qu'on oublie parfois, c'est que même pour un pays comme la France, eh bien, la culture contribue 7 fois plus au PIB que l'industrie automobile.
Eh bien Ben, je te croyais pas aussi mercantile, mais tu me surprends, parce que bon, effectivement, la diversité culturelle, ça résonne un petit peu pour l'écologie. Il n'y a pas de vie sans diversité. Donc de ce point de vue-là, on a un modèle qui est un peu comparable entre la nature et la culture. Il faut de la diversité. Mais Ben, aujourd'hui, c'est le premier jour de la fête de la nature. Je pensais que tu allais nous en parler.
Non, je t'ai laissé cette introduction. Je pense que c'était important de parler de l'illettrisme, même au niveau climatique. Ça, on va voir ça avec notre invité tout à l'heure. Mais je pense que là aussi, il y a un vrai travail à faire.
Entre culture et écologie, il y aurait des points à faire. Moi, je suis par exemple assez surpris de voir que le thème de l'écologie inspire peu aujourd'hui nos créateurs, nos artistes contemporains. Dans le rap, il y a peu d'écologie. Dans la musique en général, depuis la mère de Debussy, il y a plus. Non, si je me trompe pas, on a l'impression que la nature inspire plus très peu
nos artistes.
Nos artistes. Pourquoi ?
Ah oui. Non, moi j'ai une autre approche.
Tu seras capable de nous trouver des artistes inspirés par l'écologie ?
Oui, je l'invite la prochaine fois. Nicole King.
Ah d'accord.
Elle est capable justement d'en parler.
Je ne sais pas si ce sera la biologiste. Ce sera pas la prochaine fois.
Elle est capable d'en parler. Et elle est capable justement de faire cette espèce de synthèse entre sa démarche scientifique et sa démarche artistique.
Eh bien voilà, donc les arènes de l'écologie, c'est une émission un petit peu à tiroir. Donc aujourd'hui, oui, on a ouvert un premier tiroir, et puis dans quelques semaines, on ouvrira un deuxième pour comprendre la profondeur de tes raisonnements et de tes chroniques. Eh bien écoute Ben, on te remercie, et puis eh ben, tu nous laisses un petit peu de temps pour parler de notre ministre et de son agenda.
Hein, bien sûr, pardon.
Voilà, bah écoute, merci. Donc on va faire un tour par l'hôtel de Roquechlor maintenant.
Ah oui, ça c'est un autre enjeu.
Bah, oui, c'est quand même... Qu'est-ce qu'il y a sur l'agenda de Madame la ministre cette semaine ? Alors, donc, bah, Madame la ministre est partie, en suivant Monsieur Emmanuel Macron, j'imagine, à Versailles, sur le sommet Schuss France, parce que manifestement, l'objectif, c'est quand même de rentrer des capitaux en France.
Ah, voilà, c'est ça.
Voilà. Donc, l'environnement s'est occupé de l'attractivité économique cette semaine, donc lundi. Alors, mardi, c'était plus une séance à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a quand même quelques débats importants. Et se prépare aussi un sujet qui va nous importer bientôt, qui est la fameuse loi... La loi sur l'agriculture, la loi du plomb dans l'aile de l'agriculture.
Elle s'appelle comme ça, la loi du...
Non, ça c'est moi qui, c'est moi qui précise.
Du plomb tout court.
C'est moi qui précise, mais donc le 4... Okay. Notez tout le monde sur vos tablettes que le 4 juin, mercredi 4 juin, on va faire probablement une émission spéciale sur... sur les votes à l'Assemblée nationale autour de ce hold-up, que moi j'appelle un hold-up, hein, je suis un peu partisan, là, je dépasse ma vision de ma neutralité journalistique bien connue. Effectivement, mais ceci étant, quand on regarde à la télé... On est en train de nous faire avaler des changements, la réintroduction de certains néonicotinoïdes, comme si c'était presque normal.
En pleine affaire Perrier. Hein.
Oui, en pleine affaire Perrier aussi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des scandales qui, il y a quelques dizaines d'années, auraient fait hurler tout le monde, qui passent comme crème. On dit comme ça, qu'a fait crème maintenant dans...
On dit comme ça.
Voilà, parfait. Mais moi, je ne suis pas très doué pour les expressions de Jones.
C'est les nouvelles couleuvres.
Voilà, c'est ça.
Qu'on veut nous faire réparer.
Bon, après, Madame la Ministre a rencontré Laurence Tubiana. Alors, Laurence Tubiana, qu'on n'a pas encore réussi à inviter, mais qu'on devrait essayer. Donc, Madame Climat, accord de climat de Paris en 2015. C'est vrai qu'il est temps qu'elle puisse se rencontrer. C'était cette semaine les présidents de conseils régionaux qui étaient à l'honneur, donc à commencer par Loïc Chesnay-Girard, le très connu et bien connu président du conseil régional de Bretagne, mais aussi accessoirement le président de l'association des régions de France.
Et il fait quoi ce monsieur ?
Ah ben, il préside le conseil régional de Bretagne. Non, mais on ne se rend pas compte
non.
Que beaucoup de sujets se traitent au niveau régional. Et notamment en Bretagne, au moins la question des pollutions agricoles et son cœur des problématiques. Et puis il n'y a pas que... Les questions d'algues vertes comme pollution agricole, mais on en parlera beaucoup plus
longuement
le 4 juin. Donc c'est important qu'effectivement la ministre de l'écologie aille voir ce qui se passe un peu sur le terrain. Bon, aujourd'hui c'est essentiellement question à l'Assemblée nationale, question au gouvernement, au Sénat. Ensuite, pour faire vite, on va prendre. Donc, elle rencontre le ministère des Relations extérieures de Jersey. C'est vrai que c'est essentiel, c'est une plaque tournante mondiale.
Sur la pêche ?
Oui, sur la pêche. Ouais, à 3 pas de La Hague. C'est un mystère. Alors, c'est vrai que c'est qui était là-bas ? C'était Victor Hugo, donc c'est peut-être de la culture, après tout. Mais bon. Il faudra qu'on nous explique le mystère de ces enjeux. Et puis après, remise des prix des thèses du ministère de la Transition écologique. Bon, c'est sympa. Déplacement dans les Alpes-Maritimes plutôt. Bon, on comprend bien, on est en train de préparer l'UNSOLC. Le 4 juin, tu y seras déjà.
Ouais. Le sommet mondial des océans.
Voilà.
Qui est.
C'est bien qu'il y a
sous les auspices des Nations Unies. Ouais.
Mais c'est vrai qu'elle ne va pas y rester bien longtemps. Une journée devrait suffire. Le vendredi, elle remonte dans le nord, elle retourne à Boulogne-sur-Mer.
La pêche toujours.
La pêche toujours, mais c'est aussi chez madame. Donc, elle repart en week-end. Quoi. Mais bon, c'est sympa. Hein. Moi, je ferais pareil aussi. Hein. On ne va pas la critiquer là-dessus. Donc voilà, c'était l'agenda de madame la ministre. On va pas dire qu'il y a des urgences folles, quoi. J'aurais aimé qu'on en parle un peu plus, moi.
Mais à l'exemple de toutes les semaines. À l'identique de toutes les semaines.
Oui, tu trouves, toi
Ah oui, toutes les semaines, c'est un peu la même chose qui se répète.
D'accord. Donc
on ne voit pas bien les enjeux quand on lui voit son agenda.
Oui, bon, écoute, on est peut-être médisants.
Mais on attend de voir, on lui laisse le temps un peu.
Oui, oui. Ok, écoutez, madame la ministre, accélérons, et puis...
Jingle,
voilà. Et après, la petite musique du moment. Alors, vous verrez, c'est une musique que j'adore. Mais bon, allez.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Allongé seul sur mon lit, j'ai le mal du pays. J'ai le cœur qui s'entête quand j'ai l'âme au Mali. C'est comme un mal de tête. Une mélancolie qui me dit je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali. Allongé seul sur mon lit, j'ai le corps chant solitaire pour toucher ta magie. Noir ou blanche, qu'importe, le mélange est inouï, vu d'ici. Je suis Mali,
puissance, Mali, puissance.
Je suis Mali,
puissance, Mali, puissance.
Je suis Mali,
puissance, Mali, puissance.
Je suis Mali.
Eh bien, j'imagine que vous aviez tous reconnu Mathieu Chély de Je suis Mali, donc son nouveau album, L'âme au Mali. Donc, rendant hommage notamment à Toumani Diabaté, qui est disparu cet été. Mais donc, nous voilà revenus avec Anakriti, qui va mettre son casque, qui va se préparer pour répondre à toutes nos questions sur les mystères de son poste, de sa discipline. Mais qu'est-ce que c'est que ça que l'économie du climat? Vous comptez les nuages, vous faites quoi?
Non, c'est vrai que la question est légitime parce qu'on comprend un peu économie de l'environnement, on comprend économie de l'énergie. Économie du climat, c'est vrai que c'est un domaine relativement plus récent. Alors, si on devait un peu le situer dans les développements de l'histoire, un peu de la pensée économique, je dirais ça parce que la date à laquelle on dit l'économie du climat est née, c'est quand même les années 90.
D'accord.
Avec deux travaux qui, quand même, ont eu une certaine résonance, notamment avec un prix Nobel. Donc, les travaux d'un professeur américain, William Nordhaus, qui, pour la première fois, a proposé un modèle qu'on appelle un modèle intégré, dans lequel il y a une composante physique qui décrit les grandes tendances climatiques et une composante macroéconomique qui vise à comprendre essentiellement... un volant de prévision et surtout comment les économies
dépendaient
à la fois
du climat.
Génèrent justement le problème des émissions de CO2 et donc tout le problème de réchauffement climatique et d'autre part quelle est la valeur monétaire des dommages qu'on subit à cause du changement climatique. Et le troisième élément était est-ce que ce sont des dommages justement qui se manifestent dans les longs termes et en fonction de cela, est-ce qu'il faut investir aujourd'hui ou demain?
D'accord. Donc dès le départ,
donc
avant le sommet de la Terre en 92, avant le donc qui a abouti au protocole de Kyoto.
C'est à peu près en même temps en fait. Et disons que ces travaux avaient aussi l'objectif de donner un éclairage plus scientifique aux travaux qui
d'accord.
étaient
mais
plutôt
ce William,
politiques.
Ce William Nordhaus, il était professeur d'économie, j'imagine, quelque
il
part.
Il était professeur d'économie de l'environnement.
De quelle université?
Harvard.
Harvard, d'accord.
Donc, c'est vraiment à lui qu'on doit... C'est cette empreinte, on va dire. Mais tout de suite après, c'est lui qui est peut-être le plus connu. Donc c'est Nordhaus qui a eu après les prix Nobel. Il y a, je pense, 4 ou 5 ans. Et celui qu'on connaît un peu plus, parce qu'il est plutôt lié à notre histoire européenne, c'est un autre professeur de la London School of Economics, qui s'appelle Nicolas Stern,
ah, oui.
Et qui a véritablement fait la synthèse sur l'économie du climat dans le cadre d'un travail qui lui a été demandé par les gouvernements britanniques et sous la forme vraiment d'une synthèse. Donc, avec l'idée de dire, tu as un an, tu vas travailler avec tes équipes pour après nous dire qu'est-ce que c'est l'économie du climat. Et il y avait donc déjà cette vision européenne dans laquelle Stern a fait un peu la synthèse des travaux existants et il a lui-même ensuite proposé sa vision de l'économie du changement climatique.
Et ça, c'était quelle année ?
Alors, c'est, cet ouvrage, il est paru en 1998.
D'accord.
Et donc, à partir de là, on va dire que les débats sont posés, les questions sont posées, parce que dans une approche qui est assez similaire à celle de Nordhaus, c'est-à-dire la création de ce modèle intégré économie-climat, la vision de Nicolas Stern était différente. C'est le premier qui a vraiment dit que l'inaction climatique était plus chère que le fait d'avoir en fait à investir sur le climat.
D'accord. Donc c'était une espèce d'expertise collective.
Oui, c'était une synthèse du savoir.
Du moment. Ouais. Parce que c'était aussi... Bon, moi, je m'occupais d'un autre sujet à l'époque, c'était celui de l'amiante. C'était le début des expertises collectives. La fameuse enquête, dont étude de l'INSERM, qui a, entre guillemets, servi de socle à toute la démarche sur l'amiante, était la première expertise collective faite par l'INSERM. Donc ça doit être un moment clé dans l'histoire des sciences.
C'est aussi le moment où on a des travaux qui commencent du GIEC,
oui.
Qui est d'une forme également d'expertise collective, parce que les GIEC, son fondement est aussi celui de faire la synthèse de tout ce qui est publié, de le vérifier, de le mettre un peu en résonance, de choisir aussi des voies d'approfondissement.
Peut-être que les sciences changeaient un peu de... Peut-être pas de paradigme, mais de méthode. Là où avant, on avait souvent tendance à avoir un grand sachant qui proposait ses théories, peut-être qu'à la fin du siècle, on commence à raisonner plus sur ces expertises collectives, sur le collectif de la science. Est-ce que... Bon, c'est une intuition, est-ce que vous...
Je pense que ce sont des domaines dans lesquels on a besoin d'une expertise multidisciplinaire.
Oui.
Donc ça, c'est aussi une caractéristique de problèmes liés au climat. Déjà, le climat comprend différents volants, donc qu'il s'agisse du côté eau, air, terre. Donc on a, et cela représente des spécialisations très différentes en sciences. Mais après, ce qu'on a fait, on a rajouté la couche économique en disant que c'est aussi un problème de politique, de choix d'investissement public et privé. Et donc, on a dû aussi trouver ces liens.
Alors, la question qui me brûle les lèvres, comment vous êtes tombé dans la marmite de l'économie du climat ? Par quel chemin êtes-vous arrivé à...
Moi, c'est vrai que mon chemin, moi, je n'étais pas dans les groupes de travail de Stern. Mais en fait, ma carrière s'est vraiment bâtie sur aller chercher l'expertise la plus, on va dire, compliquée. Donc, j'ai beaucoup voyagé.
Mais votre parcours,
j'ai passé le cycle
universitaire. Alors, je ne sais pas comment il est en Italie, si c'est la même chose que nous.
Oui, effectivement.
Votre maîtrise, vous l'avez fait tout, alors, ce qu'on appelle un master maintenant.
Oui, en plus, moi, j'ai commencé, au lycée, j'étudiais le latin, le grec, la littérature, la philosophie, donc je suis profondément humaniste.
D'accord. Et plus lettres que chiffres, dans un premier temps.
Oui, mais je me suis convertie vite aux chiffres.
D'accord.
Et c'est vrai que j'ai dit toujours que en économie, hein, moi j'utilise les mathématiques bien sûr, mais comme un langage, donc comme si c'était du grec ou du latin. J'ai traduit, je continue à traduire.
D'accord.
les pensées en équation au lieu de les traduire en lettres grecques. Et j'ai fait mes études à Milan. Dans un cursus à l'université Bocconi, qui est une des meilleures universités italiennes, qui était vraiment dédiée à la recherche. Donc, dans mon promo, 90% de mes collègues sont dédiés à la carrière académique ou à la recherche.
Quelle discipline ?
J'ai fait économie.
D'accord.
Je suis une économiste convaincue. Donc économiste,
vous êtes passé des lettres à l'économie, donc on est bien d'accord.
Des lettres à l'économie. Voilà. Mathématiques, mais c'était un cursus dans lequel on avait aussi de l'épistémologie, de la philosophie, donc on essayait...
Des économistes qui réfléchissaient, dingue.
on essayait de réfléchir. Et ensuite, je me suis spécialisée, je suis venue en France, j'ai fait une période de recherche à l'université Bocconi, et je suis venue en France pour étudier justement les côtés quantitatifs, parce que l'école française d'économie est très dominée par les maths. Donc c'est le prototype ici, c'est l'ingénieur économiste, donc les polytechniciens ou celui qui a fait un SAE. Et j'ai senti que voilà, j'avais beaucoup à apprendre dans ces côtés-là, dans la modélisation.
C'est vrai que ta modélisation à l'époque, c'était le climat.
Ma question était vraiment comment, dans les modèles, on peut synthétiser les comportements. Et il y a un choix, parce que quand on met les comportements dans des équations, évidemment, on ne peut pas tout décrire, on fait plusieurs hypothèses. Et comment, en fait, grâce à cela, on guide aussi la décision publique.
Alors, vous êtes arrivé directement à Dauphine ou vous êtes passé par une autre fac?
Pas du tout. Là, à l'époque, j'étais à celle qu'aujourd'hui est la Paris School of Economics. Après, j'ai terminé mon master et je suis allée à la London School of Economics. Voilà. Là, c'est un point de rencontre avec Stern, qui aujourd'hui travaille encore au Grantham Center à la London School of Economics. Après, je suis revenue en France. Je suis passée par la Belgique. Après, je suis allée aux États-Unis. Je suis retournée quand même en Italie à un moment, à Bocconi aussi. Dans ces parcours, je me suis progressivement spécialisée sur des questions qui ont trait à tout ce qui est la puissance un peu de la réglementation dans l'économie. Et cela m'a amenée à un sujet particulier qui a fait une très grande partie de ma carrière, qui est l'énergie. Donc, je me suis intéressée au marché de l'électricité, au marché du gaz. Et à l'époque, on n'était vraiment pas nombreux non plus. Surtout d'économistes, parce qu'il y avait beaucoup d'ingénieurs, évidemment. Et en 2008, c'est le mariage entre l'énergie et le climat, à partir du moment où la Commission européenne a lié à jamais le destin de l'énergie à celui du climat, en imposant une baisse drastique des émissions qui sont liées aux fossiles, et donc toute la partie... directive 2020, donc les débuts, justement au milieu des années 2000, dès la politique aussi.
Donc il a fallu quand même 10 ans entre le protocole de Kyoto et puis le début des outils économiques et...
De leur, je dirais, de leur expansion, parce qu'il y avait déjà... des formes de taxation environnementale, par exemple, mais qui n'étaient pas coordonnées comme on l'a fait en Europe quand on a introduit, et ça a représenté un point vraiment fondamental aussi dans ma compréhension des phénomènes, la création du marché des permis à polluer en Europe. D'ailleurs la date à laquelle a été fondée la chaire économie du climat par mon collègue, le fondateur Christian Despertuis, parce que c'était quelque chose d'extrêmement nouveau, un marché qui est là pour la réglementation, et personne ne comprenait comment ça pouvait marcher.
Ah bah, au sentier, il y en a qui ont bien compris comment ça pouvait détourner, en tout cas.
Je sais qu'on a tous en tête...
Ça a commencé par un méga scandale.
Oui, mais ça, ce n'est pas un problème comment dire. du concept. Mmh. C'était un problème de mise en œuvre. Mais,
oui, je parce crois que les trous étaient béants.
Bah, c'est un problème de TVA. Mmh. On n'avait pas saisi le fait qu'il n'y avait pas... Enfin, je dirais que c'est un problème fiscal et pas un problème de politique environnementale. Mais il y en a qui se sont aperçus que d'un côté, on pouvait charger la TVA et de l'autre, non. Donc 20% de gain, la part du gain était bien là. Mais il ne faut pas penser à voilà, une défaillance du marché des quotas à polluer. C'était plutôt un problème du début, à savoir que l'Europe a eu cette clairvoyance de réunir 27 pays, à l'époque 28 d'ailleurs, et avec des histoires énergétiques, environnementales, complètement différentes, et d'en faire un marché unique. À aujourd'hui, bon, certes, il y a la Chine. Chaque fois qu'on a la Chine, on a des facteurs multiplicateurs énorme. Voilà. Mais le marché chinois est aussi basé sur l'expérience européenne. Et à l'époque, quand ce marché est né en 2004, mais on était vraiment les seuls dans le monde à essayer quelque chose d'aussi complexe, de façon coordonnée, avec un véritable marché qui réunit 11 000 installations. Et aujourd'hui,
ça marche ou pas? Parce que c'est vrai que, pour le coup, moi, je ne suis vraiment pas un homme de chiffres et d'argent, non?
Il y a eu des hauts et des bas, comme dans la vie de tout le monde. Mais donc, au début, comme on voulait faire un peu passer la pilule, hein, c'est toujours quand même une forme de taxe. Hein. Dans les cadres initiaux, on a donné beaucoup d'allocations aux entreprises qui étaient soumises à ces nouveaux marchés pour dire « ne vous inquiétez pas, ça va changer, mais pas trop ». Et donc, pendant plusieurs années, les prix carbone issus du marché étaient faibles. Donc, on a eu des périodes où c'était 5 euros. Mais aujourd'hui, la tonne de CO2, on couvre un peu plus d'un milliard de tonnes de CO2. Ça représente à peu près 60% des émissions européennes. Et là-dedans, on a essentiellement l'énergie et l'industrie.
D'accord. Mais écoutez, on va poursuivre tout à l'heure, on fera une transition vers les comptables du carbone. Maintenant qu'on a à peu près compris les enjeux, et donc on va poursuivre ce détail, puis on reviendra sur Christian de Pertuis aussi.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Même j'imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison, elle a raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. Elle veut voir ma tâche, je veux y voir clair. Elle veut quitter Paname et changer d'air. Elle aime les balades et les choses simples. Elle en vit pas la vie d'un milliardaire. Même quand elle me travaille, me teste. Et que ma garde se baisse, je peux pas la quitter, elle me fait kiffer, elle sait que dans son regard je me perds. J'aime ses qualités, ses défauts. Quand je disais je t'aime aux autres, c'était faux. Petit verre de rhum, j'aime ses beaux. Je repense à quand j'étais pauvre. On veut changer de vie, changer de météo. Les degrés dans l'air, dans le verre, ex aequo. Loin des trams et des quais de métro. À deux sur la moto, GTO. Elle me dit imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison, elle a raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Elle veut voir Romerio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris, sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giros. Elle veut voir Venise, elle veut voir Romerio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris, sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giros. Au début elle m'a rionné, quand elle a vu comment je papillonnais. Mais c'est devenu passionnel, on a tellement de routes à sillonner. On parle de vie face à la mer, je vois bien qu'elle est pas casanière. Le soir elle a l'art, la manière, c'est ma folle, pas la ma cavalière. Les parasols.
Et là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison, elle a raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Imagine. Imagine. Imagine.
Peu importe, à la limite.
Oui, mais le problème, c'est qu'on n'investit pas assez.
Eh bien, nous voilà revenus dans les arènes, et vous avez même entendu une petite phrase de discussion en aparté pendant la musique. Donc, vous l'avez naturellement tous reconnu. Il s'agit de Carbone, un chanteur qui avait un nom prédestiné pour cette émission, à la nuance près tout de même qu'il y a deux N à son nom, mais c'est pas bien grave. Donc Pierre Carbone, un jeune rappeur de Montpellier. Donc voilà, nous voilà donc revenus dans les arènes de l'écologie sur Ali Greffen, avec Anna Criti, professeur à Dauphine d'économie du climat. Donc on était tout à l'heure à parler du système, j'irais, de régulation du marché carbone. C'est effectivement pas si simple. C'est pas simple d'inventer un nouveau marché, j'imagine. C'est presque inédit dans le monde économique. D'habitude, les marchés, ils se créent tout seuls. Le pétrole, il n'a pas attendu qu'il y ait quelqu'un qui appuie sur un bouton.
Oui, tout à fait. Il n'y avait pas de directive pétrole, alors qu'il y a des directives sur les marchés du CO2. L'Europe avait longuement discuté les avantages des marchés par rapport à son alternative, qui était une taxe.
Oui.
Et le problème pour lequel on n'a pas eu de consensus sur la taxe, c'est qu'il n'y avait pas d'accord sur le niveau de taxe. Et aussi, évidemment, il fallait trouver, comme d'habitude, un consensus, parce que notamment sur les questions fiscales, il faut avoir l'unanimité. L'autre question, c'était si on met une taxe, ça va être difficile de mettre un objectif de réduction à long terme. Donc, on a choisi la solution marché, dans laquelle, en fait, le rôle du régulateur, donc de la Commission européenne, est celui de fixer un peu l'enveloppe, donc le nombre de quotas en circulation par année, qui doivent, en fait, un peu diminuer progressivement pour atteindre justement...
Avec des mécanismes d'autorégulation et de... J'imagine que c'est ça qu'on...
Oui, c'est à la fois des mécanismes d'intervention du régulateur pour les règles du jeu, on va dire, et après une très grande souplesse qui est laissée aux entreprises dans une forme d'échange de quotas.
D'accord. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a eu des précédents historiques à la création d'un marché comme ça de ex nihilo ?
Alors, c'est dans les cadres d'autres marchés, en fait, je dirais que non.
Donc ça a pu cafouiller, et on peut expliquer aussi que c'était la première fois au monde qu'on créait un marché.
Surtout de cette ampleur, parce que les autres, à l'époque, les autres marchés qui étaient en train d'être mis en œuvre, bon, il y en a un en particulier qui est important, c'est celui californien, mais qui avait une portée plus limitée.
Oui, la Californie, c'est l'équivalent de la France, quoi, pour faire simple.
Oui, sauf que...
sauf qu'il y a Google, et puis bon...
Non, sauf qu'en termes de création de PIB, c'est l'Europe, presque.
D'accord.
Donc, bon. Mais avec des règles plus souples que celles qu'on avait en Europe, et surtout un pays. Mmh. Alors que, voilà, je pense qu'il faut concevoir aussi cette création du marché comme un exercice un peu de démocratie environnementale, parce qu'il a fallu mettre d'accord tout le monde et sur les règles de ces marchés. Et après, voilà, on a laissé la créativité des entreprises, et ils y sont arrivés quand même vite. Hein.
D'accord. Alors, en dehors de donner des cours et puis de faire des recherches sur l'économie du climat, vous présidez aussi l'association ABC, que dire, Association Bilan Carbone, qui existe depuis 20 ans et qui a repris, je crois, un modèle de l'ADEME, qui était issue elle-même des analyses de cycle de vie pour pouvoir calculer l'empreinte carbone des entreprises. Et donc, l'autre fois, vous avez, dont il y a quelques mois, je crois, vous avez fêté les 20 ans de cette association, que j'ai un peu tendance à appeler, parce que j'adore les raccourcis, les simplifications, l'association des experts comptables du carbone. Est-ce que c'est une image qui est juste ou pas?
Alors déjà, le nom précis de l'association, c'est Association pour la transition bas carbone. Et ce nom a changé il y a deux ans. Non, mais vous avez raison, parce que le nom il a changé récemment et moi, je suis arrivée à ce moment-là, donc je suis bien placée pour le savoir. Parce que pendant la plupart de son existence, elle s'est bien appelée Association Bilan Carbone. Bilan Carbone est une marque déposée et c'est un outil. Qui sert effectivement à comptabiliser les émissions. Il est né dans les prémices de l'ADEME en 2004. 2004, si vous vous rappelez, c'est la même date à laquelle a commencé le marché carbone européen. Donc, on était dans une... C'était un bon vintage. Mieux qu'aujourd'hui. Et donc, il est passé dans les mains... c'est une sorte d'essaimage de l'ADEME en 2011. L'association Bilan Carbone a été créée. Et donc, l'association s'est vraiment emparée de l'avis de cet outil. Et justement, 20 ans, parce que ces 20 ans ont servi à améliorer l'outil, parce que compter les carbones n'est pas facile.
Non.
Vous avez parlé du cycle de vie, c'est l'une des façons d'approcher la comptabilité carbone. Donc, on essaye de comprendre au plus près possible quel est le contenu carbone de tout ce qui nous entoure. L'ABC naît essentiellement pour l'outil bilan carbone naît pour les entreprises, mais il y a aussi la possibilité en tant que citoyen de calculer son empreinte carbone, donc notamment avec Nos Gestes Climat, qui est également la plateforme de comptabilité carbone des individus qui est abritée dans l'association.
Alors, l'image que j'en faisais, vos membres, ce sont des experts comptables du carbone ou pas? Parce que c'est à peu près le même métier appliqué à un autre domaine.
Alors, il y a des experts comptables, donc si on veut être précis. Ce que fait l'ABC, c'est un peu le garant de la méthode. Et après, ils forment des experts qui ensuite interviennent dans les entreprises, les collectivités. C'est un peu le sanctuaire, on parlait de sanctuaire tout à l'heure, c'est le sanctuaire de la méthode. Donc c'est lui qui garantit qu'on a ce processus qui s'améliore et qu'on ne fait pas trop d'erreurs en fait.
D'accord, donc on n'est quand même pas très loin de l'esprit de l'expert comptable qui est là pour
On donne l'outil à l'expert comptable. Et après, si on doit véritablement identifier... à l'ABC, on travaille avec justement les experts comptables. Et d'ailleurs, il y a eu même un rapprochement formel avec les experts comptables. Il y a un volant des experts comptables qui aujourd'hui se sensibilise et se forme aussi aux questions carbone. La propriété intellectuelle, elle est là, elle est vraiment sur la façon de faire et sur les données qui sont récoltées qui ont permis à l'outil bilan carbone d'arriver justement à sa 9e édition, on va dire, qui a progressivement porté plus de précisions, notamment sur les questions de facteurs d'émission, donc comment on comptabilise la part carbone dans, les téléphones, le papier, tout ce qui peut contribuer à accumuler du carbone.
Mais c'est ça qui est intéressant. C'est comment on fait le calcul, non? J'imagine.
Alors, c'est comment faire le calcul et l'idée, c'est à chaque étape du processus de production. Donc, c'est les fameuses notions, en fait, des scopes. On doit comptabiliser les carbones qui viennent en amont. Donc, tout c'est, par exemple, pour faire la feuille de papier, à la base, il y a toujours quand même l'énergie qui est utilisée. Il y a les matières premières, il y a les bois, il y a les produits chimiques. Donc, tout cela, à chaque fois, à chaque étape, on va synthétiser la part en fait de carbone qui est incorporée dans à chaque étape du processus. Après, il y a l'usage direct justement de l'énergie. Et après, il y a aussi la partie aval, donc comment dans l'usage aussi on génère des émissions. Et notamment, cette partie-là qui est voilà, technique, on parle de scope 3, et la partie qui, dans le processus complet, prend le plus de volume d'émissions de CO2.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien, donc Anna Critis dans les arènes de l'écologie pour nous parler d'économie du climat, mais là on était sur le volet comptable. Alors c'est vrai que dans la vie d'une entreprise, la vie est marquée notamment par le bilan de l'année. On ne peut pratiquement plus rien faire dans une entreprise quand on fait son bilan, surtout quand on est fournisseur et qu'on doit se faire payer, c'est une galère. Mais tout le monde connaît ça. Les bilans carbone, aujourd'hui, n'ont pas l'air d'avoir le même impact sur la vie de la société, puis le même retentissement dans la société. C'est vrai qu'on parle très peu de gens qui nous disent « Ah, oh, on a déposé notre bilan carbone ».
Je pense que c'est quand même, si on regarde aussi les données de l'ABC, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur.
Oui.
Ça commençait comme quelque chose de volontaire. Mais aujourd'hui, c'est une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Alors, si vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises qui ont communiqué sur le fait qu'elles ont pas déposé leur bilan ou fait connaître leur bilan.
Elles sont obligées.
Oui, elles sont obligées, mais bon, il n'y a pas de communication.
Non, mais je comprends, parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose pour laquelle on fait du marketing. Alors, à mon avis, pour plusieurs raisons. Il y en a une... et peut-être on en parlera aussi après, est-ce que c'est vendeur? Est-ce que pour une entreprise, est-ce que son image de marque s'améliore pour dire
le bilan carbone? Pour le moment, c'est même pas ce qu'il y a dedans, c'est même pas, la plupart des gens ne savent même pas que ça existe.
C'est vrai que c'est aussi l'un des objectifs de l'ABC, c'est massifier l'usage du bilan carbone pour les entreprises et aussi pour les citoyens pour arriver un jour à dire peut-être qu'on référera cette émission dans quelques années et dire mais bon, finalement on va chercher plutôt ceux qui ne l'ont pas fait et pas ceux qui l'ont fait. Quand ça deviendra aussi, pas seulement la marque de fabrique de l'ABC, mais la marque de fabrique de toutes les entreprises. Dès qu'il y aura véritablement cette valeur verte qui est liée à une entreprise. Et aujourd'hui, sur ça, il y a, à mon avis, beaucoup de confusion. D'une part, il y a une sorte de peur d'être pris dans le greenwashing. D'autre part, c'est le fait de dire qu'on a des émissions... est-ce que c'est politiquement correct? Qu'est-ce qu'on en fait? Après, il y a...
Mais de toute façon, c'est la vie.
C'est la vie, mais
donc,
c'est surtout...
C'est, quand même... c'est carrément du déni. Il ne faut pas voiler la face.
Je suis convaincue. Et d'ailleurs, on n'a pas eu l'occasion de le dire, mais la chaire économie du climat est une forme de recherche partenariale. Donc, on a des entreprises qui nous aident à développer de la recherche.
Il n'y en a pas une qui a, entre guillemets, le courage d'expliquer son bilan carbone, de dire qu'elle a peut-être fait des progrès d'ailleurs.
Moi, je trouve que ça reste quelque chose qui est un peu encore difficile.
C'est dommage parce que le carbone, ce n'est que le déchet de la respiration, donc c'est le déchet de la vie.
Mais vous
c'est
voyez,
quand même pas
quand,
difficile
quand,
de dire
alors,
de vie.
Je pense qu'il y a aussi un malentendu dans le sens où les entreprises qui ont mis en avant leur bilan carbone l'ont fait pour dire nous serons neutres en carbone d'ici 20 ans, 30 ans. Donc on a les exemples typiques de Amazon, Google. Et donc, il y a deux problèmes dans ces affirmations. Il y en a un qui est plus technique, c'est-à-dire que la neutralité carbone n'a pas de sens à niveau d'une entreprise. La neutralité carbone se calcule sur une façon beaucoup plus agrégée. Alors, on peut parler de celle de la France ou de l'Europe, parce que c'est intimement lié à l'empreinte nationale. Et donc, sur ça, d'ailleurs, il y a les CITEPA, qui est l'autre grand comptable du carbone, avec qui l'ABC travaille
que
aussi.
Que nous avions invité au début de l'année, d'ailleurs.
Et, voilà.
Et on réinvitera et on fera des relations avec vous.
Voilà, on essaiera de trouver des bons exemples, d'inciter les entreprises à sortir sortir leur bilan carbone, enfin la publicité, il faudrait inventer cela. Et donc c'est vrai que c'est des termes qui se sont infiltrés dans les débats pas de la bonne façon. Et donc, c'est là que je disais, il y a toujours cette ligne de crête entre les engagements et le greenwashing qui est parfois difficile à distinguer. Moi, je suis convaincue qu'il y a des entreprises qui font des véritables efforts. J'en connais plusieurs, surtout dans les domaines de l'énergie, où on part quand même de volume, de loin. Donc, c'est peut-être un peu plus simple de réduire. Et après, il y a l'autre élément qui est celui de dire, mais... est-ce que ça parle aux gens?
Bah pour le moment, ça ne parle pas. Moi, comme plus on parle à la fois comme citoyen,
oui,
comme un petit peu averti du sujet. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que le monde associatif puisse s'emparer de ces sujets-là.
Oui.
On fait souvent intervenir France Nature Environnement en Île-de-France avec tout son réseau associatif. C'est vrai qu'il faut... Pour le moment, ce monde-là, c'est pas encore saisi de ces bilans carbone. C'est vrai qu'on va pas demander tellement de comptes aux entreprises en général ou aux actions collectives. D'ailleurs, il n'y a pas que le privé qui émet du CO2. Et puis aussi, nous, en tant que citoyens, c'est-à-dire en tant que consommateurs, en tant que salariés, comment on peut se saisir de ce concept qui est, on l'a vu dans cette émission, pas si vieux que ça. Vous voyez. La méthode, elle est plus jeune que mes filles et que mon fils.
Non, mais il y a quand même quelque chose dans le sens que, bon, peut-être que ça ne parle pas, mais vous avez peut-être entendu les questions de 2 tonnes de l'empreinte carbone à niveau de l'individu. Qui est celle théorique pour atteindre les objectifs.
Alors qu'on en émet 10 à peu près.
Oui, on en émet 10.
En France.
L'ABC et les CITEPA ont également collaboré pour justement faire cette quantification. Mais je suis d'accord avec vous, ça ne parle pas aux gens. Dire qu'est-ce que c'est 2 tonnes, qu'est-ce que c'est 9 tonnes. Oui, on a un peu l'histoire, manger local, etc. Mais ça ne va pas plus loin. La voiture, etc. Mais il n'y a pas une systématisation. Et il n'y a pas.
C'est toujours pas rentré dans la culture.
Non. Pour revenir, oui. Nous restons des illettrés, oui. Et c'est aussi pour ça que moi, je ne fais pas que de l'académie, que j'essaye aussi d'avoir ce rôle un peu.
Cette fameuse association dont vous avez une minute pour nous parler.
J'ai une minute de parler pour parler d'expertise climat.
Oui, on viendra, mais là, c'est où, comment on la contacte? Il y a un site internet, le but du jeu, c'est de mettre en relation des experts.
Il y a un site internet et ça a été fondé par des anciennes journalistes qui se sont emparées de cette question et qui ont comme objectif celui d'informer les débats et de donner la voix aux scientifiques, parce que très souvent, quand on parle de questions environnementales, climatiques, énergétiques, il y a beaucoup d'idées reçues. Et l'objectif, c'est d'amener de la clarté aux citoyens.
D'accord. Bah écoutez, on vous lance déjà une invitation pour la saison 2, parce que là, malgré tout, d'ici le 30 juillet, on a déjà un programme établi. Mais oui, c'est intéressant, d'autant que, vous l'avez compris, on est tous ici issus du monde journalistique. L'Association des journalistes de l'environnement fait aussi partie, je dirais, du Cercle des Amis des Arènes.
Alors, Anna, votre site, le site internet, alors?
Le site, c'est Expertise Climat, vous le trouvez. ABC également, là, son site, et la chaire Économie du Climat également. Et on fait aussi des séminaires, des conférences, et on publie beaucoup à la fois des papiers scientifiques, mais on a aussi des publications un peu plus large public pour essayer, nous aussi, à notre niveau, de faire passer les messages scientifiques auprès des citoyens.
Eh bien, écoutez, c'est formidable. On va pouvoir développer ces sujets-là, rester en relation. Il me reste une minute pour remercier la technique à Arnaud, Arnaud Poussin, donc qui a managé de main de maître cette émission. Et puis 30 secondes pour vous dire que la prochaine émission Ce sera avec Marc-André Sellos, ce sera sur la thématique de la biodiversité et la avec ce pape de la microbiologie qui est Marc-André Sellos du Muséum. On parlera notamment de la biodiversité invisible et peut-être celle qui est la plus importante en termes de nombre d'espèces. Mais bon, on développera le sujet et puis il me reste à vous souhaiter une bonne semaine écologique et puis à être présent la semaine prochaine, à remercier Anna Kriti d'être venue et puis si ça peut, vous avez besoin d'étudiants
la chaire économie du climat aujourd'hui elle est composée de 25 doctorants et en ce moment on a 9 stagiaires de recherche donc
vous en voulez d'autres.
C'est une belle communauté, venez chaque année.
Bon, écoutez, c'est parfait. Alors, il n'y a pas très loin d'Aligre à Paris Dauphine. Eh bien, bonne semaine à tous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.